Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Antoine Robitaille et Caroline Saint-Hilaire sont avec nous pour parler de politics. Bonjour à vous deux.
Oui, aujourd'hui on parle de politique quand
non,
même.
Non, on parle de politics parce qu'on commence avec Ottawa
et
il y a Julie Payette là qui est dans le trouble, la gouverneure générale Caroline.
Toxique, ben, Julie.
En fait, elle est dans le trouble depuis longtemps, mais là, messieurs, on apprend dans le Globe and Mail que le rapport confirmerait, je parle au conditionnel parce que on n'a pas de source qui confirme, tout est anonyme dans cet article-là, personne n'a encore vu officiellement leur rapport, mais ce serait confirmé, donc on va voir comment va réagir Justin Trudeau. Dans l'article, on nous dit qu'il est impatient, qu'il aurait aimé que Mme Payette prenne des mesures, qu'elle confirme qu'effectivement il y a des problèmes et qu'elle y travaille, mais elle dit qu'il n'y a pas de problème du tout, donc ce sera à suivre. Est-ce qu'elle sera démissionnée? Est-ce qu'elle va quitter? Est-ce que Justin Trudeau va demander au secours, va crier au secours à la reine pour changer de gouverneur général? Alors,
Il y a une question constitutionnelle ici.
Ben, je sens que Patrick Taillon va arriver à la haut sur la colline, ce ne sera pas long. Hein?
Vas-y, fais-toi lundi. Plaisir. Vas-y, Antoine.
Lundi, on en jase à la haut sur la colline.
Érotise-toi.
Donc, voilà, ce sera à suivre, mais je pensais que c'était quand même important. Donc, on verra si le rapport sera rendu public de un et quelles seront les décisions du premier ministre du Canadien dans ce dossier-là.
Moi je suis curieux de voir c'est quoi les exemples, le détail, là, tu sais, le comportement. Qu'est-ce qui amène ce rapport qui condamne Julie Payette là, sur sa façon de se comporter?
Ben depuis le début, bon, tout ça est fait de façon confidentielle, donc ce que je te dis, c'est ce que je peux lire, hein, parce que tu devines que je suis pas dans le bureau, donc si je rapporte mal, c'est que je lis tout simplement les articles que j'ai lus depuis quelques mois là-dessus. Il y a eu beaucoup de roulements de personnel, il y a un climat toxique effectivement, il y aurait un comportement de la part de la gouverneure générale au niveau du personnel, la gestion du personnel, donc il y aura tout ça. Mais en fait, pour répondre à ta question, j'espère que le rapport sera rendu public, non pas nécessairement avec les noms, on n'a pas besoin de savoir qui s'est fait maltraiter ou intimider, mais si effectivement il y a un climat toxique et qu'on garde en plus la gouverneure générale en poste, il me semble qu'on devrait savoir ce qui se passe, parce qu'il y a un petit peu de nos taxes là-dedans. Hein?
Un petit peu. Puis il y a des cas, des fois, là, où quelqu'un arrive nouveau dans un bureau, puis on n'aime pas sa nouvelle approche. On n'aime pas que cette personne-là... Je parle d'un autre cas, là, que je veux pas identifier, mais qui vient faire le ménage. Et là, tout à coup, on veut pas que les choses changent dans le bureau. Ça allait bien, là. Il y en a qui recevaient de l'argent en dessous de la table.
J'ai comme deviné de qui tu parlais. Ouais, mais c'est ça. Mais ça dépend, effectivement. Est-ce que c'est un leadership différent, puis qu'il y a de la résistance au changement?
C'est ça.
Ou si effectivement c'est un problème de personnalité, tout ça. Mais tu sais, quand tu lis l'article, on sent que Justin Trudeau est impatient et en tout cas ça semble être confirmé dans ce rapport-là qu'il y a vraiment un problème de relation avec le personnel, un problème d'adaptation, disons ça comme ça.
Okay.
Et rappelez-vous les propos hier de M. Biden, hein, il a dit que si vous avez quoi que ce soit, je veux que les gens soient bien traités. J'imagine que M. Trudeau a entendu ce message de Joe Biden.
Ouais, Joe Biden qui est le nouveau président canadien aux États-Unis. Parce qu'il est gentil, puis il est fin, puis il est
ben, prenons des bonnes affaires quand elles passent, Benoît.
Ben, certainement. Derek Sloan, en passant, justement, lui, il s'en va vers la sortie. Oui.
Il est parti déjà, mais c'était un secret de polichinelle. Plusieurs conservateurs souhaitaient qu'il parte. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, bon, bien sûr, là, on va voir si effectivement il va joindre le parti de Maxime Bernier ou s'il va siéger comme indépendant au cours des prochains mois. Mais c'est les discussions. Vous savez qu'un caucus, c'est confidentiel, donc je peux pas... j'ai pas nécessairement tous les tenailles et aboutissants des conversations. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça n'a pas été si facile que ça pour le chef M. O'Toole, où certaines personnes, et quand on lit le communiqué, on comprend mieux les discussions du caucus où les gens voulaient pas que, dans le fond, on vire de bord trop vite, Monsieur Sloan. Il a fallu mettre des gants blancs sur la façon qu'on le congédiait. C'est pas juste à cause du fait qu'il a accepté un chèque. C'est vraiment un problème de comportement. Donc, il veut élever la barre. Et j'invite les gens à lire le communiqué de Monsieur O'Toole. Vraiment, on a mis des gants blancs. On sent que même si on me dit que la décision s'est prise de façon consensuelle, il y a quand même eu une petite résistance au sein du Parti conservateur sur le traitement de Monsieur Derek Sloan.
Derek Sloan, là, c'est pas celui qui avait les boîtes caribou au Capitole, là, puis qui était en bédaine. C'est pas le même gars, là.
Non, c'est pas le même.
Je voulais juste vérifier. Antoine, de ton côté, Éric Kerr fait la nouvelle.
Oui, un mini remaniement. C'est un dossier, finalement, qui change de main. Avant, il y avait... c'était Simon-Jolin Barrette qui était responsable de quoi? De l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. C'est quand même un dossier important après tout ce qui est arrivé, là, notamment à Desjardins, mais aussi à Capital One, ces renseignements personnels là, qui sont volés, qui sont utilisés après pour faire finalement du détournement de fonds et compagnie. Donc, il y a un projet de loi qui, ça fait deux fois qu'il change de ministre responsable. En fait, celle-là, c'est la troisième fois, parce que c'est le projet de loi 64. C'est Sonia Lebel qui l'avait déposé d'abord. Ensuite, c'est Simon-Jolin Barrette qui en avait hérité. Puis là, ben c'est Éric Kerr qui en hérite. Et avant, on disait toujours, le projet de loi 64, c'est compliqué, c'est juridique. Ça prend quelqu'un qui a des compétences juridiques. Il semble que là, dans le communiqué qu'on a, on nous dit que ce qui est plus logique, c'est que ça soit relié au numérique. Alors, on va suivre ça. Simon-Jolin Barrette est bien occupé de la langue française, puis leader parlementaire. C'est sûr que ça l'occupe beaucoup, mais c'est lui qui avait fait toutes les consultations sur le projet de loi 64. Donc, M. Kerr, lui, il était pas là, genre.
Ben, là, il en hérite. Il va se mettre à jour comme M. Al-Ghabra, le nouveau ministre des Transports. Il va lire ses dossiers.
M. Kerr, lui, il veut envoyer beaucoup de nos données personnelles sur des serveurs étrangers et privés.
Ils ont déjà tout ça. Qu'est-ce que tu veux que ça change? Nombre de contraventions dans les maisons en hausse. Non, mais arrêtez d'être choqué pour votre vie privée. On n'a plus de vie privée. Ils savent tous sur nous, là.
Moi, tu le sais. Journée.
D'ailleurs, t'étais drôle dans ton divan hier soir. J'ai eu des images de ça.
C'était pas pire, hein?
Ouais. Comment ça, j'ai pas ça, moi?
Ça vaut le mérite.
Bon. Bonne journée, au revoir.
Ça valait bon quand même ce que t'as mangé hier soir.
Oui, c'était bon.
Mais là, on vous dérange-tu, nous autres, tout le Québec, pendant que vous jasez de vos affaires personnelles?
Non, j'ai tous les renseignements personnels, Benoît.
Y avait-tu les mitaines de M. Sanders?
J'étais dans ma chaise de pique-nique. Bon, OK. la hausse de contravention dans les maisons.
C'est intéressant, cette nouvelle de Geneviève Lajoie dans le journal ce matin. Donc, je pense que, pour le résumer, c'est qu'une norme, quand elle n'est que suggérée, quand on pense qu'il n'y aura pas de conséquences si on la viole, ben elle n'est pas respectée.
C'est ça.
Et là, on a décidé donc de donner des contraventions. Puis, je pense que, comme on peut le lire dans l'article, les policiers ont comme entendu un appel du gouvernement à l'effet que c'est l'heure n'est plus à la suggestion, mais à la répression. C'est plus de sévérité, plus de rigueur. Alors, il y a 371 rapports ou constats dans des résidences privées qui ont été émis. Il y en a beaucoup à Montréal, puis le couvre-feu aussi a amené finalement les policiers à agir. Il y a un aspect intéressant aussi que l'article de Geneviève Lajoie souligne, c'est que il y a une sorte de désengagement, de découragement des policiers parce qu'ils se font beaucoup filmer maintenant. Mm-hmm. Puis ces images-là circulent sur Internet. Alors, ça les amène justement à se désengager puis à moins intervenir. Mm-hmm. Et là, ça a pris le pouvoir politique pour dire, ben là, c'est le temps là, qu'on aille du côté de la répression pour qu'ils s'y mettent. Eux-mêmes le disent là, en entrevue avec Geneviève Lajoie.
C'est bon. Et la deuxième dose, c'est pas pour demain matin?
Non.
Parce que la première, c'est même pas pour cet après-midi.
Il paraît qu'on peut attendre. C'est les experts en immunisation qui ont été mandatés par le gouvernement du Québec qui maintiennent leur recommandation de reporter cette deuxième injection du vaccin. On sait que les normes, habituellement, c'est 41 jours. Là, eux autres, ils sont prêts. Ils ont dit au gouvernement, on peut attendre 90 jours et on va pouvoir utiliser ce qui aurait été des deuxièmes doses comme première dose pour plus de monde. Donc, on veut protéger plus de monde, des gens qui sont souvent vulnérables. Et donc, c'est une étude là qui a été produite et qui confirme finalement et qui conforte le gouvernement. On va voir ce que le premier ministre va dire là, à 13h, il y a une conférence de presse, mais ça conforte le gouvernement sur le fait qu'il peut attendre un petit peu, et surtout qu'il y a une pénurie de doses actuellement.
Ben oui, de toute façon, donc, on va attendre. Il y en a pas de vaccin. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de blitz international de toutes les compagnies pharmaceutiques, les laboratoires pour sortir des vaccins, pour les distribuer au plus sacrant là pour cesser cette pandémie. Je comprends pas qu'on soit tous là les bras croisés à attendre que Pfizer fasse le ménage dans son laboratoire.
Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, avoir un vaccin aussi rapidement que...
Non, ça c'est fait, bravo. Oui. Maintenant, il faut le distribuer, il faut le produire et le distribuer.
C'est peut-être pas évident non plus, il y a peut-être des blocages, limites à la production.
Je vois pas quelqu'un
puis
central...
Puis des batailles politiques entre les pays, ça c'est certain.
Non, je comprends, mais tu sais, comme l'Organisation mondiale de la santé pourrait servir à ça, pour dire, OK, on va se rassembler, on va produire des vaccins, on va les distribuer à travers le monde au plus sacrant. On fera les factures après. Mmh. Mais là, c'est comme on attend. Il y a des gens qui meurent
à chaque
jour.
En attendant, moi, je te propose un petit sourire là, pour la fin de cette chronique.
J'en veux pas.
Non?
C'est quoi? Vas-y.
Souris donc
un peu.
Bonne journée, moi.
Ah, oui.
C'est le député de Vio, Franz Benjamin, qui est poète de son état et qui chante sur Facebook une belle chanson de Gilles Vigneault.
Bon, envoie donc. On se laisse là-dessus. Caroline, merci. Antoine, merci. On écoute ça.
Merci.
Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est l'hiver.